Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Très heureuse de vous retrouver ce mercredi dans Bienfait pour vous. Alors nous sommes toujours en direct depuis le tournoi de Roland-Garros dans Europe 1 et la radio officielle. Alors Julia, quel est le programme de l'émission aujourd'hui?
Eh bien comme chaque matin déjà à 11h45, on va écouter les meilleurs conseils des bienfaiteurs d'Europe 1. Premièrement, il y aura le docteur Alexandre Marchac, chirurgien plastique et esthétique. Et ce matin, il va nous dire si les sportifs, voire même les grands sportifs, vieillissent réellement mieux que nous, Mélanie. Est-ce que le sport conserve au final? Il nous dira tout. Et puis avec nous, comme tous les mercredis, il y aura aussi Nathalie Le Breton. Alors elle va nous proposer 3 livres pour enfants qui peuvent booster leur niveau de confiance en eux quand ils en manquent. Toutes ces suggestions de lecture, ce sera dans 3 quarts d'heure.
Allez, avant ça, tout de suite, pour démarrer l'émission, on va ouvrir avec un thème plein de sensualité. Et cette question, avez-vous déjà analysé votre façon de faire l'amour? Alors, je vous rassure tout de suite, on ne va pas faire de travaux pratiques ce matin, mais on va surtout prendre le temps de réfléchir à notre sexualité de façon philosophique. On s'arrêtera sur le désir, l'extase, les scénarios culturels que l'on met parfois en place sans même s'en rendre compte dans l'intimité. Ce sera notre dossier du jour, un dossier qui va démarrer juste après le point de vue de Clément Lanoux.
Europe 1.
Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde, quel sujet aujourd'hui, la sexualité. Alors je sais pas vous, mais moi le sexe pour le sexe, si c'est pas pour fonder une famille, aucun intérêt. On n'est pas des animaux. Eh ben si, au contraire, nous sommes des animaux. On agit parfois comme des animaux. Donc Mélanie, Julia, je vous propose un quiz sexualité animalière ce matin. Et on commence, alors vous êtes dans la même équipe, on commence avec un vrai faux. Je vous donne une info, vous me dites si elle est vraie ou elle est fausse. Les chauves-souris sont des adeptes de la fellation.
Non, faux. Ah mais non, c'est sûr que oui.
Ah eh bon ben, bonne réponse de Julia. Oui, la majorité des pénétrations commencent par des préliminaires, justement. Il y a même une étude qui prouve que 7 fois sur 10, une femelle prodiguerait une fellation au partenaire avant le rapport chez les chauves-souris. On passe aux sangliers. Alors, aux sangliers, on parle très peu de la sexualité des sangliers. Pourtant, ils sont réputés pour leur infidélité. Ils se reproduisent même avec d'autres animaux. Le plus courant, c'est un papa sanglier avec une maman cochon. Comment s'appelle le résultat, le bébé? Est-ce qu'il s'agit des sanglochons? Est-ce qu'il s'agit des cocheliers? Ou alors est-ce qu'il s'agit des cochons de dingue? Puisqu'une dinde, c'est...
Non, c'est des cochelier, c'est invité. Cochelier, réponse bah
non.
B.
Non, c'est un sanglochon, c'est mignon.
Un sanglochon?
Un sanglochon. Eh bah, vous irez voir sur Internet, d'accord. Ça vaut le détour. On passe aux manchots. Les manchots, en plus de la sexualité, ils ont rajouté un petit truc, ils se prostituent. Mais comment? Petit 1, est-ce qu'ils donnent des cailloux en échange de rapports sexuels? Est-ce qu'ils offrent leur corps contre du poisson? Ou bien est-ce qu'ils ont un site internet adopteunpingouin.com? Et je vous invite à aller faire un petit tour.
Le corps contre du poisson.
Le corps du poisson. Ah bah non, c'est les cailloux. À chaque fois, si on leur donne un caillou, ils peuvent donner leur corps parce que c'est un trésor pour eux. On continue avec les macaques indonésiens qui font un petit truc mignon avant le rapport. Est-ce qu'ils ramènent du feuillage comme nous on offre des fleurs? Est-ce qu'ils enlèvent tous les poux de leur partenaire avant de leur faire ce qu'ils ont à faire? Ou bien est-ce qu'ils jouent toujours un petit air de Cabrel? Je t'aimais, je t'aime et je t'aime.
Attendez, j'ai oublié de quel animal on parle.
Le macaque indonésien.
Ah, le macaque, les poux.
Les poux, c'est les poux. Ils enlèvent les poux de leur partenaire. Allez, une petite dernière, elle n'est pas simple. On parle de l'antilope femelle. Elle a une particularité. Quelle est cette particularité? Petit 1, est-ce qu'elle a un pénis? Est-ce qu'elle harcèle sexuellement les mâles en leur réclamant plus d'une dizaine de rapports par jour? Ou bien est-ce qu'elle s'allume une clope après l'amour?
Harcèlement de l'antilope.
C'est pas bien, mais effectivement, c'est une des rares espèces où justement la femelle harcèle l'homme jusqu'à 10 rapports par jour et les antilopes mâles n'en peuvent plus. Voilà, vous savez tout.
Eh bien, merci. Merci beaucoup, Clément Lanoux, pour cette intro joyeuse. On va rentrer à présent dans le vif du sujet grâce à notre invité. C'est vous, Alexandre Lacroix. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et auteur du livre « Apprendre à faire l'amour ». C'est paru chez Flammarion. Et c'est justement ce à quoi on va réfléchir aujourd'hui, non pas d'un point de vue sexuel ou psychologique, mais plutôt philosophique. Vous rappelez d'ailleurs que, dès le début de votre livre, que Sigmund Freud comparait la libido au fait de se nourrir à la faim, en fait. Pourtant, vous estimez que philosophiquement, cela ne fonctionne pas. Pourquoi ?
Ce serait bien trop simple. C'est vrai que quand il invente le concept de libido, Freud la compare à une forme d'appétit. Et il dit que comme la faim ou la soif, ça se comble de manière simple et mécanique. En fait, il y aurait une tension au niveau de l'organe et on pourrait soulager cette tension de manière linéaire, prévisible, garantie. Alors si ça marchait comme ça, la sexualité, en fait, ce serait très simple. Par exemple, la frustration, le manque n'existerait pas vraiment. S'il s'agissait simplement de soulager régler une tension localisée dans un organe, de même qu'on se remplit l'estomac, par un moyen très simple, la masturbation, tout le monde serait parfaitement détendu, soulagé et heureux.
C'est ça. Et c'est vrai, rien ne nous garantit, on le sait bien, d'assouvir complètement son désir sexuel à chaque fois. D'autant que vous avez des chiffres, je crois, le nombre de rapports sexuels moyens au cours de notre vie, c'est combien? Et je crois que c'est pas toujours l'extase, hein.
Alors d'abord, au niveau global, c'est beaucoup. Les démographes estiment que les êtres humains font l'amour 192 milliards de fois par an.
Oula.
Hein? Donc, si vous on est nombreux, c'est
pour ça. Ah oui, c'est ça. Je pensais que c'était... je n'avais pas bien compris. Okay.
Donc la sexualité humaine n'a pas une finalité simplement procréative. Vous imaginez s'il y avait un enfant qui naissait de chacun de ses rapports.
C'est même une histoire de plaisir, de recherche de plaisir et de désir.
Voilà, on cherche autre chose. Et au niveau d'une vie, alors on peut faire des estimations, mais c'est quelque part entre 5 et 10 000 rapports dans une vie. Donc c'est à la fois beaucoup et peu. Évidemment, chacun de ces rapports n'est pas une grande extase, mais voilà à peu près l'horizon chiffrée de notre sexualité.
Vous expliquez dans le livre que lorsque nous faisons l'amour, il y a notamment des scénarios culturels. Expliquez-nous en nous donnant des exemples concrets, s'il vous plaît.
Alors, en fait, il y a deux sociologues de la sexualité américains qui ne sont pas très connus en France, mais très influents dans le monde, John Gagnon et William Simon, qui ont les premiers inventé l'idée qu'il y avait des scripts, en fait, que la sexualité humaine était scriptée. C'est aussi pour ça que Freud a un peu tort. Des scripts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on suit des codifications culturelles, sociales, on fait l'amour dans une certaine civilisation, à une certaine époque, de telle ou telle manière. Alors ces scripts, en fait, ils peuvent être de plusieurs natures. Il y a des scripts qui ne vous concernent que vous, je sais pas, mettons un homme qui aimerait les femmes avec les cheveux longs ou avec une poitrine opulente, ce serait un script... ce qu'ils appellent un script intrapsychique. Il y a des scripts interpersonnels, c'est-à-dire entre deux personnes. Et là, on voit bien que dans un couple, sans que ce soit dit ni écrit, il y a des habitudes qui sont prises, il y a une certaine manière de faire. On a des secrets, on a des clés pour faire plaisir à l'autre. Et donc, on écrit des scénarios à deux, en quelque sorte. Et puis enfin, il y a des scénarios culturels. Alors, les scénarios culturels, parfois, sont de purs clichés. Je veux dire, faire l'amour dans un jacuzzi ou devant une cheminée allumée.
Ah oui, c'est
un scénario culturel. Oui, mais alors, ce
qui est
intéressant... Ce qui est intéressant, c'est que les trois niveaux interagissent. C'est-à-dire que tout se mêle un petit peu quand on fait l'amour. On mélange des choses qui nous sont propres, des choses qui appartiennent à la relation et des scénarios qui traversent notre culture, qu'on a vu au cinéma ou lu dans des romans.
Oui, puis la pornographie a peut-être changé les choses. On va en parler. Merci Alexandre. On reste ensemble. Alors la partie préliminaire de cette émission s'achève, mais on a encore beaucoup de choses à analyser ensemble. On va s'intéresser à la nudité, au pot à pot et même au petit bavardage que l'on peut avoir dans l'intimité. On y revient très vite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Très heureuse de vous retrouver sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à midi en direct depuis le tournoi de Roland-Garros. Et ce matin, on vous invite à réfléchir à notre façon de faire l'amour. Et on le fait grâce à l'éclairage de notre invité Alexandre Lacroix, philosophe et auteur du livre « Apprendre à faire l'amour » paru chez Flammarion. Alors on continue à décrire philosophiquement le « coup parfait » entre guillemets. Mais juste avant ça, je voudrais qu'on revienne sur ce que vous aviez dit avant la publicité et avant le disque sur les scénarios culturels. Est-ce que vous ne pensez pas que ces scénarios culturels maintenant sont intimement liés en fait à la pornographie? Elle est diffusée partout. Est-ce que c'est pas un peu perverti par la pornographie?
Oui, c'est exact. La pornographie est accessible en streaming et les sites de pornographie sont dans tous les pays du monde, même là où ils sont interdits, parmi les 10 sites les plus fréquentés. Et donc, on a une large période de la vie où l'éducation sexuelle se fait à travers ces vidéos. L'accès à la pornographie, l'âge moyen en France est de 11 ans.
C'est dingue.
Et ce qui a par contre peu évolué, alors cet âge s'est beaucoup abaissé en 20 ans, ce qui a par contre peu évolué, c'est l'âge du premier rapport sexuel qui est toujours de 16-17 ans pour les garçons et les filles.
Néanmoins, vous pensez qu'on peut dire que les scénarios culturels, justement, peut-être influencés par la pornographie, ont fait évoluer la façon de faire l'amour de, par exemple, de nous, déjà, de nos enfants bientôt, par rapport à ceux de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents?
C'est certain, c'est-à-dire que pendant 5 ou 6 ans, la représentation de la sexualité qu'on se construit, on le fait à travers le porno. Alors mon point, ce n'est pas de faire la morale là-dessus, ce n'est pas un point moral, ça crée quand même certains problèmes. D'abord, le premier problème pour les garçons, c'est qu'on voit quand même des vidéos où, il faut le rappeler, les femmes n'ont pas de plaisir. Donc ça veut dire qu'on construit un imaginaire, des gestes, des postures, des manières de faire qui ne donnent pas de plaisir aux femmes, ce qui est quand même embêtant dans une perspective hétérosexuelle. Et il y a un autre problème, semble-t-il, c'est que par la magie du montage, les acteurs semblent être complètement infatigables, indestructibles. Ça peut créer de fortes inhibitions chez un adolescent, mais aussi ça crée une idée, un culte de l'efficacité et de la performance qui est complètement démesuré. Et ça construit quelque chose qui nous éloigne du plaisir qui devrait, à mon avis, être abordé de manière beaucoup plus détendue. Oui.
Alors, vous analysez également dans le livre les bavardages que l'on peut avoir lorsqu'on fait l'amour. Et ce que l'on retient, c'est que ce sont bien souvent des phrases très courtes, des mots, quand on prend la parole dans ces moments-là. Comment vous l'expliquez ?
Alors ça, c'est amusant. C'est un chapitre assez court de quelques pages où je parle des conversations pendant l'amour. Et je n'ai jamais eu autant de réactions que sur ce chapitre. Tout le monde a envie d'en parler.
Bah oui.
Alors pourquoi ? Parce que je me moque un petit peu du niveau de ces conversations. C'est-à-dire que souvent, les conversations, on peut dire ça ici à Roland-Garros, c'est un peu des conversations de coach sportif, quoi, d'entraîneur.
Je vois bien.
Oui, vas-y, t'arrêtes
vas-y,
pas.
C'est bien,
là,
super.
C'est bon, continue, oui, bon. Donc c'est pas extrêmement intéressant du point de vue du discours. Certains se lancent dans de grandes affabulations, de grands scénarios. Explique-moi ce que tu ferais si. Mets-toi dans le rôle de. Alors là, ça devient un peu fictionnel et on perd un peu pied dans ces grands scénarios. Et en fait, j'essayais d'analyser la chose et je me disais, mais être créatif dans une conversation ou quand on écrit, par exemple, c'est-à-dire être créatif avec les mots, avec le langage. On a tous eu des conversations qui ont changé notre vie, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais quand on est créatif avec le langage, ça demande une extrême concentration, un extrême investissement. Et là, c'est un peu comme si on vous demandait, quand vous faites l'amour, d'être créatif avec le langage. C'est un peu comme vouloir jouer du violon en montant à cheval, quoi.
Donc c'est impossible. Il faut donc se taire. C'est ce que vous préconisez.
Je déconseille se taire même. Ou être humble et modeste sur sa capacité à produire des phrases intéressantes.
Je crois que justement, vous déconseillez même de dire « je t'aime » pendant l'acte. Pourquoi ?
Ah non, ça je ne déconseille pas. Ce que je relève dans un autre chapitre sur les je t'aime pendant l'amour, c'est que ce qui est le plus intéressant, c'est qu'un je t'aime crée une sorte d'ouverture ou d'horizon d'attente où on espère que l'autre va dire je t'aime en retour. Et en fait, donc ça ouvre une temporalité très très particulière. C'est un peu comme, je file la métaphore avec Roland Garros, comme un service qu'on lance. On attend un retour de la balle qui peut d'ailleurs arriver bien plus tard. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que le je t'aime, c'est à la fois un don, mais c'est un don qui appelle un contre-don.
Et dites-moi, parce que je vais moi aussi filer la métaphore
Allez-y, Julien,
tennis.
On vous écoute filer.
Parfois, ce sont de véritables cris hein, qui se passent durant l'acte, comme les jeunes femmes là, qui rattrapent les...
Ouais, faites bien la tennisman.
Ouais, c'est un peu nul. Bon, bref, pourquoi on a un tel besoin comme ça, un peu animal ? C'est pour se motiver comme d'un point de vue sportif ?
Alors, il y a plusieurs types de cris. Là aussi, j'ai un chapitre sur les cris qui a beaucoup moins fait réagir. Les gens sont peut-être plus pudiques sur cette question. D'abord, il me semble qu'il y a parfois de l'exhibitionnisme vocal. Et il faudrait d'ailleurs inventer un mot pour le plaisir un peu bizarre que prennent certains à entendre les autres faire l'amour. Par exemple, quand les fenêtres sont ouvertes en
les
été
voisins.
Et qu'il y a une cour d'immeuble. Voilà. Et peut-être qu'on pourrait... Enfin, je propose un néologisme, l'auditorisme. De même qu'il y a le voyeurisme, il y aurait peut-être l'auditorisme.
Ça existe
serait...
ouais, y a des
bon,
gens
je ne sais pas, je l'invente, je propose.
Ça doit exister.
Et je me dis qu'il y a comme ça un jeu et qu'il y a des cris qui sont adressés aux autres. C'est-à-dire, il existe toute une sorte de cris qui ne sont pas vraiment adressés aux partenaires, mais qui sont adressés à un public plus ou moins imaginaire, suivant l'épaisseur des cloisons.
C'est pour impressionner les voisins. Ouais.
Voilà. Ou le couple d'à côté. Ou... Et alors, il existe par contre des cris qui sont adressés aux partenaires. Et là, ils ont quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus singulier. Et puis enfin, il y a des cris qui échappent complètement. C'est-à-dire, ce sont des cris hors contrôle. À mon sens, ce sont les plus beaux.
C'est quoi, par exemple ?
Ah, ben non, mais c'est-à-dire que c'est le cri qu'on n'avait pas prévu de pousser.
Un cri de jouissance, par exemple, pendant les stages.
Quelque chose qui est d'une pure spontanéité.
Presque maladroit, même. Hein.
Alors, justement, en parlant de maladresse, vous dites également que parfois, bah oui, il peut y avoir un « ah », il peut y avoir « ah non, pas ça », ou je sais quoi. Ces maladresses-là, elles sont les bienvenues ou...
Elles sont mignonnes et à cultiver, non, peut-être ?
À mon sens, oui. Ça rompt avec, justement, notre imaginaire très mécanique qui vient de la pornographie, l'imaginaire contemporain de la sexualité. C'est un imaginaire de machine bien huilée, bien rodée, qui devrait fonctionner toujours parfaitement. Et on voit bien que, rapporté à une relation, ben, cette sexualité-là, c'est une sexualité désespérante. C'est une sexualité désespérante et que dans la maladresse, si la maladresse est quand même accueillie, je dirais, avec... voilà, avec un sourire, il y a quelque chose de notre vulnérabilité, de notre humanité qui transparaît. Et se rappeler qu'on n'est pas des machines, ça me paraît d'abord une chose importante. Il y a des maladresses qui sont des accros. Il y a peut-être aussi des maladresses, par exemple un coup de coude nonchalamment envoyé au visage, qui signale que peut-être qu'on ferait mieux de passer au Scrabble. C'est-à-dire...
oui, il y a des maladresses qui veulent dire quelque chose.
Qui veulent dire comme des actes manqués. Il y a des maladresses qui veulent dire que voilà, peut-être que...
C'est pas le moment,
qu'il faut mettre fin ou faire une pause.
Eh bien, Alexandre, vous ne bougez pas au cours d'une vie.
On va faire une petite pause, justement.
Nous faisons l'amour des milliers de fois. Alors, si nous prenions le temps de réfléchir un peu à nos gestes, à nos habitudes, pour donner à ces moments davantage d'intensité, c'est ce que l'on vous propose ce matin sur Europe 1. Alors, à tout de suite.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali. Mélanie Gomez.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1 ce matin dans Bienfait pour vous. Nous sommes toujours en direct de la Porte d'Auteuil et du tournoi de Roland-Garros et on a décidé aujourd'hui de réfléchir à notre façon de faire l'amour. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, en tout cas lorsqu'on est adulte, voire en couple depuis longtemps. Alors ce travail de réflexion, eh bien on vous le propose ce matin accompagné du philosophe Alexandre Lacroix. Alors Alexandre, vous écrivez dans votre livre que la différence entre la pornographie et l'érotisme, c'est surtout le rythme finalement. Ça veut dire que pour bien faire l'amour, il faudrait peut-être le travailler, ce rythme. Je crois que vous conseillez d'ailleurs plutôt le rythme du swing que celui, je ne sais pas, de la techno, électro, par exemple.
Oui, c'est-à-dire que pour distinguer érotisme et pornographie, je me suis longtemps basé sur les interdictions de passage à la télévision. Vous savez, les petits carrés roses, interdits aux moins de 18 ans. Or, quand on vit les choses, les actes sont les mêmes. Enfin, je veux dire que si on sort un tout petit peu du cinéma, une étreinte, un ébat, on va faire les mêmes actes. Et pourtant, parfois, ça va être érotique et pornographique. Mais alors, comment on fait la distinction un peu subtile, cette fois pas visuelle, mais intérieure entre les deux? Eh bien, peut-être que c'est une question de rythme. Et je vous propose cette hypothèse, c'est de considérer que la pornographie est rapide et que l'érotisme est lent. En fait, l'érotisme, ça demande un ralentissement du temps pour que la sensorialité, nos cinq sens jouissent d'eux-mêmes en fait. C'est-à-dire que ça demande d'accueillir les petites perceptions, les perceptions subtiles. C'est ce qui fait qu'un baiser par exemple peut être pornographique s'il est très avide, dévorant, mais il peut être très suave, très lent, très doux, et un baiser peut aussi être érotique. Donc vous voyez, n'importe quel acte peut être l'un ou l'autre suivant le rythme auquel on le pratique.
Et la durée, puisque vous nous disiez pendant la publicité que la durée moyenne d'un rapport sexuel, c'est...
C'est pas ça. La vérité, c'est qu'on dit qu'il nous reste 6 minutes d'émission. Il a dit, écoutez, c'est parfait, c'est la durée moyenne d'un rapport sexuel.
C'est peu. Ça, hein. Donc, oui. On n'a pas beaucoup de place pour l'érotisme dans nos vies. Est-ce qu'il faudrait le marquer sur un agenda, vous pensez? Non, mais je rigole pas avec ça, on marque les coups.
Alors, ça, c'est une chose que je m'amusais à remarquer. Je crois que personne ne met jamais dans son agenda le jour ou le rendez-vous dans lequel il a prévu de faire l'amour. C'est jamais...
Pas pour les gens qui font de la procréation médicalement assistée. Et apparemment, d'après leur témoignage, ils disent que c'est pas très
érotique. Ça casse l'ambiance, quoi.
Non, et donc ça veut dire que c'est un temps qu'on vole au temps des horloges, qu'on vole au temps de l'agenda, qu'on vole au temps social, en fait. C'est un temps pour soi. Et justement, sur le swing, ma remarque, c'est de dire, voilà, il y a deux manières d'envisager les choses. Peut-être que notre imaginaire pornographique nous conduit à reproduire des formes de reproduction très mécaniques et très violentes. Ce serait un peu un rythme techno, mais alors, vous voyez, boum, boum, quelque chose de vraiment la tyrannie d'un rythme qui se répète. Et qu'est-ce que c'est que le swing? On swing quand dans une musique à pulsation binaire, il y a une réduction, une contraction du deuxième temps, mais une contraction qui est complètement aléatoire. Ça veut dire qu'on répète les notes quand on swing en jazz ou en blues, on répète les notes, mais il y a une altération qu'on ne peut pas écrire sur une partition. Il y a quelque chose qui ondoie. Eh bien, je me dis que cette idée-là, cette idée que dans la répétition, on peut accueillir l'autre, on peut accueillir l'impalpable, l'impondérable, une élasticité, c'est une idée qui peut nous guider pour rendre les rapports moins mécaniques.
Alors, faire bien l'amour, c'est ce que j'ai bien compris de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est être plutôt dans une forme de lenteur que dans la rapidité, un rythme plutôt lent. Néanmoins, dans le livre, vous abordez aussi la brutalité des rapports sexuels qu'il peut y avoir parfois lors des ébats amoureux. Alors, on ne parle pas ici du tout de sadomasochisme ou de brutalité, vraiment de violence, mais plutôt de ce besoin que ressentent certains lors des rapports sexuels de défier un peu physiquement l'autre. Oui. Ça dit quoi ?
Oui, en fait, il me semble que quand on est adulte, on se confronte assez peu au corps des autres. C'est-à-dire que quand on est enfant, il y a des bagarres dans les cours d'école et il y a des corps à corps constants. Alors certes, c'est sur le mode un peu du conflit, mais on perd ça à l'âge adulte. Sauf que j'ai l'impression qu'il en reste quelque chose quand on fait l'amour. C'est-à-dire qu'il y a le contact des peaux qui a créé une forme d'ivresse. Et il y a aussi, sans parler de conflictualité, de sadomasochisme ou de mise en scène compliquée, il y a aussi le fait de se faire des petites misères. Enfin, je veux dire, de se pincer, de se griffer un peu, de se mordiller. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu enfantin qui filtre comme ça dans nos rapports érotiques, sensuels.
On parle toujours de l'orgasme comme étant le point culminant du plaisir. Et pourtant, à vous lire, il s'agirait plutôt du moment qui précède l'orgasme. Vous comparez ce moment à un souvenir de jeunesse en roller. Racontez-nous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ah oui, alors non. Ça, c'est un souvenir un peu particulier. Il n'y a que les gens qui ont fait du roller assez intensément qui pourront voir de quoi je parle. Quand on est en roller et qu'on est jeune et qu'on fait des bêtises, on s'accroche à des voitures ou à des motos.
Et c'est mal, surtout ne faites pas ça.
Ouais, voilà. Et il y a un moment où on le sent très très bien dans les pieds, on n'a pas l'adhérence avec les roues pour tenir si on venait à lâcher. C'est-à-dire il y a quelque chose, on se dit bon bah voilà, là je suis rentré dans l'inéluctable, dans l'irréversible, c'est-à-dire il faut que la voiture ou la moto freine, si je lâche, je tombe. Et il y a un moment, quand on fait l'amour, je dis tiens, c'est intéressant, il y a un moment, quand on est un homme, en tout cas, où on ne peut plus retenir l'orgasme, c'est-à-dire on a passé un point de non-retour, mais pourtant on n'est pas encore dans l'orgasme. Et alors ce qui est intéressant, évidemment, c'est que ce moment un peu suspendu avant la petite mort, on peut apprendre, me semble-t-il, avec le temps, à le faire durer un petit peu. Mais ça s'inscrit dans une critique plus large de l'orgasme que je fais dans le livre. J'ai l'impression que les gens somnubilent avec cette idée, notamment avec le fait que ce soit un objectif à atteindre, qu'il faille faire jouir l'autre absolument. Et moi, je pense que c'est une activité qui doit être agréable tout du long et en elle-même, qu'il ne faut pas somnubiler pour les quelques secondes de crispation finale.
Bon, ben voilà, on va retenir ça en conclusion. Merci beaucoup, Alexandre Lacroix, d'avoir été avec nous ce matin depuis 11h. Et pour encore davantage d'informations passionnantes, je rappelle qu'il y a votre livre « Apprendre à faire l'amour » paru chez Flammarion. Julien, on va changer de thématique maintenant.
Et oui, les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 arrivent en studio. Le docteur Alexandre Marchac va nous expliquer si le sport conserve autant qu'on l'imagine et notamment, est-ce que les sportifs vieillissent vraiment moins vite. Et puis, il y aura aussi les prescriptions et lectures pour enfants de Nathalie Le Breton. Et ce matin, des livres pour travailler sur la confiance en soi des plus jeunes. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bien fait pour vous, ça continue et l'équipe s'est encore renforcée puisque deux de nos bienfaiteurs nous ont rejoints ici dans notre studio au cœur de Roland-Garros. Nathalie Le Breton, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors
bonjour.
Tout à l'heure, vous allez nous proposer des livres pour booster la confiance, c'est bien ça?
Ah, bah oui, en musique. Sauf que dans les livres, ça n'est pas crois en moi, mais crois en toi, cher enfant. C'est ce que nous allons voir.
Quelle intro, quel teasing. Merci Nathalie, on vous retrouve dans quelques minutes. Mais pour l'instant, c'est au tour du docteur Alexandre Marchac de nous prodiguer ses conseils. Bonjour docteur. Alors on va en parler de vieillissement et de sport. On est à Roland-Garros, c'est l'occasion je crois.
Oui, c'est ça. On est dans le temple du sport, donc il faut parler du vieillissement. Et je crois que vous aviez une question à me poser.
Bah, en fait, la question, c'est franchement, est-ce que vous pensez que si je fais trop de sport, je vais m'abîmer plus vite, docteur?
Non, alors...
Non, mais parce que moi, j'ai entendu dire, par exemple, que quand on fait trop de footing, eh ben, tout fout le camp au niveau du visage.
Alors non, le footing, ça ne fait pas tomber le visage. Par contre, le footing, ça peut creuser le visage. Et c'est vrai que si vous avez un copain qui s'est mis au marathon récemment,
oui,
il a perdu une taille de pantalon, mais
une
il a pris 10 ans.
Une taille de visage aussi.
Voilà, parce que la graisse de son visage fond des pommettes. Alors, heureusement, voilà, on a inventé l'acide hyaluronique qui permet de remplir un peu.
C'est ça. Mais ce qu'on dit, parce que donc on est à Roland-Garros, effectivement, on voit plein de magnifiques athlètes qui soumettent leur corps à des efforts surhumains. Et on se demandait justement comment ils vieillissent, ces jeunes sportifs. Est-ce qu'ils ne s'abîment pas quelque part quand même à faire autant de sport?
Ouais, ils peuvent se blesser. Vous avez vu Gaël Monfils qui a dû déclarer forfait à cause de ses blessures au tendon. Et puis on sait que sur le long terme, ils ont une carrière qui s'arrête finalement parce qu'ils ont des blessures articulaires. Mais au-delà de ça, si on prend sur la longévité, les études montrent que les sportifs vivent mieux que les gens de la population générale. Il y avait une étude sur les gens qui avaient participé aux Jeux Olympiques. Mmh. Il y avait 2400 sportifs français qui avaient participé aux Jeux Olympiques depuis les années 48. Et on voyait qu'ils avaient 50% de baisse de la mortalité par rapport à la population générale.
C'est pas rien.
Donc c'est pas rien. Ça a été confirmé par une grande méta-analyse, 165 000 sportifs professionnels, 50% de baisse de la mortalité, toutes causes confondues.
Ah oui. Mais est-ce que ça c'est vrai, Alexandre, pour tous les sports, y compris le tennis ?
Alors, c'est vrai pour la plupart des sports, certains sports plus que d'autres. C'est vrai qu'il y a des sports qui causent des traumatismes, des traumas cérébraux, et puis il y a d'autres sports avec des fractures.
La boxe, le rugby, voilà, ces choses-là,
les sports de force, ouais. Les sports de force, c'est moins bon. Ce qui est très bon, c'est les sports d'endurance. Le tennis, ça en fait partie, et ça va baisser les risques de problèmes cardiovasculaires, ça diminue aussi le risque de cancer. Donc, c'est des gens qui vont vivre plus longtemps en meilleure santé. Après, pour nous, dans la population générale, on sait que 2h30 à 5h de sport par semaine, il y a vraiment d'énormes bénéfices sur notre longévité.
Et oui, hein, ça, trop de sport peut tuer avec Julien, on l'a bien compris, donc on n'en fait jamais trop. Et il y a des gens qui vivent très vieux aussi, pourtant, sans faire de sport, comme Churchill, hein, qui est mort à 90 ans. Et alors lui, carrément, il fumait, il buvait, il faisait aucun sport. Alors là, comment on l'explique du coup, docteur ?
Bah, il avait une génétique exceptionnelle. Ouais. Et avec une génétique comme ça, ça permet de dépasser son potentiel. Mais s'il avait fait du sport, qu'il n'avait pas bu et qu'il n'avait pas fumé, il aurait probablement vécu jusqu'à 100 ans.
Oui.
Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que Churchill, il a vécu les dernières années de sa vie dans un mauvais état. Il a fait des AVC à répétition, il a terminé dans un fauteuil roulant, il a dû abandonner la politique parce qu'il n'arrivait plus à se concentrer. Donc, la vraie question, c'est à quoi est-ce que vous voulez que ressemblent vos 10 dernières années de vie ?
Ça, c'est important parce que vivre vieux, mais dans quel état ?
Voilà, en bonne santé.
En bonne santé.
Et ça, on sait que de nos jours, le sport, c'est un composant fondamental pour vivre bien en bonne santé les dernières années de sa vie.
Alors, comme vous êtes chirurgien esthétique, nous, ce qui nous intéresse, c'est de.
Bah, vous surtout ?
Oui, bah oui, moi, ça m'intéresse drôlement. Est-ce qu'il y a un sport qui peut nous rendre plus belles ?
Un sport, non, mais une combinaison de sports. On sait que globalement, il faut faire de l'endurance et du renforcement musculaire. Et puis, il faut aussi travailler sa souplesse et son équilibre.
Bah, c'est exactement ce que je fais.
Ouais.
Ça marche pas aussi belle.
Et il faut continuer. Il ne faut surtout pas arrêter.
Donc,
c'est un travail
du renforcement musculaire, de l'endurance et du yoga. Je suis bien.
Voilà, c'est ça. Bah, il faut continuer. Après, il y a des sports qui... Donc, le sport, c'est très bien pour la silhouette.
Ouais. Mais pour le visage.
Mais pour le visage, c'est, voilà, c'est ça. Pour le visage, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la course à pied. C'est que parfois, ça peut être contre-productif. À la fois, ça va améliorer la microcirculation, on va avoir un visage qui est quand même plus hydraté, plus tonique. Et en même temps, il y a le problème de tous les sports en extérieur, et notamment le tennis. Ici, c'est dramatique pour le soleil, c'est leur premier ennemi. Donc, à partir de 20 ans, jamais sur les courses en son SPF 50 et sa casquette. Sinon, à 50 ans, c'est une peau comme une chaussure toute cramoisie.
Avec des taches et tout
et
ça.
Voilà.
Ouais.
Et puis après, effectivement, comme vous disiez, pour la course à pied à l'excès, le visage peut se creuser. Donc, heureusement, après, on a des petites techniques en médecine esthétique.
Je viendrai vous voir après mon marathon. Voilà. Merci docteur Marchak pour cet éclairage médical sur le sport et le vieillissement. Allez, on continue sur notre bonne lancée. On passe la balle à Nathalie Le Breton pour sa chronique Lecture Jeunesse. On dit souvent que pour aider nos enfants à prendre confiance en eux, eh bien c'est bien de passer par des activités comme le sport justement ou le théâtre. Vous, vous ajoutez les livres ce matin. Pourquoi Nathalie ?
Mais oui, parce qu'il faut leur donner des mots et finalement c'est notre rôle de parents que de les encourager, que de les pousser, que de leur dire que c'est pas parce qu'il y a eu un échec qu'ils ne vont pas rebondir, bien évidemment. Alors donc, les livres vont donner des mots à des parents qui vont être un petit peu timides, ne pas oser, et qui eux-mêmes n'ont pas été éduqués comme ça. Je commence avec un premier livre qui s'appelle « Pour que tu t'aimes en grand ». C'est un livre qui est subtil, magnifique. C'est une petite fille qui est l'héroïne. C'est sorti chez Casterman, un livre de Capucine Leval et Julia Spears. Et c'est chouette parce que de page en page, cette maman donne le secret à sa fille. Et elle lui dit « Tu sais, par exemple, si tu rates un dessin, c'est sans doute parce que tu demandes d'entraînement et que ce n'est pas parce que tu as raté ton dessin. Ce qui peut arriver, que toi, tu es une ratée. Pareil sur le sport. Si sur la course, si sur le tennis à Roland-Garros, bah, t'es plutôt moyenne, c'est pas ton truc. Mais peut-être qu'en escalade, peut-être qu'en yoga, effectivement, là, tu vas te révéler et tu seras la meilleure. Et donc, si vous voulez, à chaque fois, ce livre, c'est un message pour s'améliorer un peu plus. Et ça se chuchote comme un mantra presque au niveau des enfants.
Bon, ça a l'air d'être un bel ouvrage. Mais Nathalie, donnez la confiance à ses enfants, c'est aussi savoir les lâcher de temps en temps, arrêter de trop les couver. Vous me regardez, oui, je suis une mère poule, voilà, mais on a trop tellement peur qu'il leur arrive quelque chose.
Mais oui, et finalement, attention, vous n'avez pas forcément tort, mais à un moment donné, il faut lâcher du lest, il faut lâcher prise, parce que derrière la confiance en soi, ce qui fonctionne, c'est l'expérience. Et même s'il y a une petite chute, si papa Alexandre est là, ou maman Mélanie pas loin, pour ramasser les gros bobos et consoler, c'est bien. Donc j'ai un autre bouquin qui s'appelle « Attention, petite panthère ». C'est sorti chez Lagrume. C'est un très joli livre de Quentin Vijoux. Et alors, j'aime beaucoup cette histoire parce que c'est une petite panthère. Elle en a ras-le-bol des injonctions que lui donne son papa. « Fais attention à ci, fais attention à ça ». Et comme par hasard, elle s'en va dans la jungle, terrible jungle dont on parlait tout à l'heure. Et là, elle va être face à un certain nombre de dangers, prévenue par le singe qu'une peau de banane, on peut glisser dessus, prévenue par le phare cochère qu'une mare de boue, bah, ça rend les pieds glissants après. que une toile d'araignée avec une mygale à l'intérieur, éventuellement, ça peut quand même piquer. Bref, elle est super sérieuse, cette petite panthère, et elle va échapper à toutes les erreurs, et donc elle suit les injonctions. Et puis à un moment donné, bon, elle tombe dans une grotte, etc. Et là, elle retrouve un monstre terrible qui a plein de peaux de banane, qui a plein de boue, etc. Figurez-vous que c'est son papa qui, lui, ne s'est pas écouté lui-même dans ses préceptes. Et là, d'un seul coup, à la fin, il dit à la petite panthère, tu sais quoi, on va rentrer, mais cette fois, c'est toi qui vas marcher devant. Et donc, c'est la petite qui prend son père par la main. Et donc, ça veut dire que ça y est, elle a franchi les expériences et qu'elle a confiance en elle.
Allez, un dernier rapidement pour les plus grands, parce qu'on a l'impression qu'en grandissant, la confiance manque ou s'émousse en tout cas.
Mais oui, absolument. C'est le moment où on devient sensible au regard des autres. On est en train de se transformer et là, on ne sait plus. Et donc, le livre s'appelle « La BD qui t'aide à avoir confiance en toi ». On y est complètement. C'est pour les plus grands. Un livre de Géraldine Bindi et Adrien Barman, ça ne s'invente pas, c'est sorti chez Casterman. C'est très bien, jeu de rôle, parce qu'on commence avec une simple question. Finalement, dites-moi Mélanie, celui qui est sympa avec vous, celle qui est sympa avec vous, mm-hmm. qui croit en vos rêves, celle qui t'encourage, etc., c'est votre ami, bah, évidemment, oui. C'est votre meilleur ami. Et d'un seul coup, bah, les enfants, si vous appliquiez ça à vous-même, si vous deveniez votre meilleur ami, et donc comment on va faire ? Ce livre propose un certain nombre de jeux de rôle, qui passe par le fait d'apprendre à se connaître, d'avoir de la patience avec soi-même, de la bienveillance aussi, et savoir surtout se récompenser quand on arrive à faire un petit défi. Inutile d'aller tout de suite à Roland-Garros dans les quarts de finale comme aujourd'hui, mais de commencer petit et de progresser. C'est un très bon livre, et surtout le message va passer, parce que c'est l'enfant qui va cheminer par lui-même, c'est pas le parent qui va lui dire « Aie confiance !»
Merci beaucoup Nathalie, les livres sont donc les alliés des enfants et des parents. Quand on sent que sur certains sujets on a épuisé toutes nos ressources, on retrouve bien sûr les références de ces albums sur europe1.fr et toutes les recommandations de Nathalie sur notisséauton.fr. Voilà, bien fait pour vous, c'est terminé pour aujourd'hui. On sera de retour demain à 11h. Julia, ça sera quoi notre sujet demain?
Alors si je vous dis qu'il est parfois jaune ou même vert, qu'il est toujours acide et qu'on lui prête mille et une vertus, vous me dites, il s'agit de...
Du citron.
Bravo Mélanie, c'est le citron, source de vitamine C, détoxifiant, ingrédient miracle de nos cosmétiques. On va démêler le vrai du faux au sujet de notre agrume favori. Alors rendez-vous demain.
On aurait pu dire la petite balle jaune là de Roland Garros.
Ah oui,
non, elle est toujours jaune, elle n'est jamais verte. Allez, pour le moment, on va laisser la place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe 1 Midi avec Romain Desarbres. Bonjour Romain.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Quel
je
est le
vous
programme
écoutant.
D'Europe 1 Midi? Eh ben, tant mieux, c'est le but.
Dans Europe 1 Midi, on va parler de deux sujets. Premier sujet, ce qui se passe à Nîmes. Une médiathèque a dû être fermée. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité des agents, du personnel qui l'a fait fonctionner. Ces agents, ce personnel est menacé par des dealers. Voilà comment ça se passe dans une ville de France, dans un quartier dangereux. À Nîmes, on va en parler avec Bruno Bartosetti, qui est policier. Et puis on va parler également du projet de loi Plein Emploi. Il est question de remettre au travail ceux qui en sont le plus éloignés, notamment ceux qui sont au RSA. Est-ce qu'il faut être un peu plus directif, un peu plus incitatif pour ramener vers l'emploi ceux à qui on verse un RSA? Je vous pose la question. 01 80 20 39 21. On sera avec Éric Chevet également, qui est vice-président de la CPME. Voilà le programme, à tout de suite.
Merci beaucoup Romain, à tout de suite.